Alors c'est peut-être le pur fruit du hasard, mais on sait que dans le judaïsme, il n'y a pas de hasard. Et on se prépare en ce moment à la fête de Pessah. On pense donc aux quatre coupes de vin de la fête de Pessah. Et tout spécialement ce Shabbat-là, il y a quatre sujets qui nous intéressent, puisque le premier sujet, c'est qu'on appelle ce Shabbat le Shabbat Agadol, le Shabbat qui précède la fête de Pessah, se nomme ainsi. Il y a aussi le sujet de Metsora, de la paracha qu'on va lire ce Shabbat. Et il y a également le sujet, le troisième sujet, c'est celui de l'anniversaire du Rabbi. Et peut-être le quatrième sujet qui découle de cet anniversaire, c'est le chiffre 120, puisque c'est les 120 ans du Rabbi. Donc c'est ces quatre points qu'on va étudier à travers de le Dvar Malchut du Rabbi. Et pour commencer donc, on va parler du Shabbat Agadol. Alors le Shabbat Agadol, on doit savoir d'abord que tout le contenu profond du mois de Nissan, c'est celui de la délivrance. Pourquoi? Parce que ce mois de Nissan, c'est le mois de la fête de Pessah, qu'on appelle aussi le temps de notre liberté. Et cette liberté-là, elle s'exprime tout particulièrement pendant ce Shabbat avant Pessah, le Shabbat Agadol. L'Admor HaZaken, il rapporte dans son Shulchan Aruch le miracle qui fut à l'origine de ce nom, le grand Shabbat. Alors il explique que les Égyptiens, quand ils furent avertis par les Juifs que l'Éternel s'apprêtait à frapper l'Égypte de la plaie des premiers-nés, ils allèrent se plaindre à Pharaon. Ils allèrent se plaindre à lui en lui demandant vraiment de laisser partir les enfants d'Israël. Mais Pharaon, il demeura insensible à cette plainte. Et alors, les premiers-nés d'Égypte, ils ont entrepris une guerre contre l'armée de Pharaon. Donc il y a eu, parmi les nombreux Égyptiens qui furent tués pendant cette guerre-là, il y avait ceux qui commirent des atrocités aux enfants d'Israël. Et le Rabbi, il explique que la raison pour laquelle cette guerre fut appelée grand miracle, et aussi le début des miracles de la délivrance, et qu'elle résulte d'un très haut dévoilement divin. Et le Rabbi va nous enseigner dans le Dvar Malchut que ce dévoilement divin est lui-même allusionné par une lettre de l'alphabet hébraïque. C'est la lettre Kouf. Toutes les lettres de l'alphabet hébraïque ont une signification. On peut dire même de chaque lettre qu'elle possède un corps et une âme. Un corps parce qu'elle a une forme particulière, et une âme parce qu'elle revêt une signification, elle possède un contenu profond spirituel. Et pour ce qui est de la lettre Kouf, et tout particulièrement de la lettre Kouf du mot tzaddik, le rabbi nous fait remarquer que le pied de la lettre Kouf, il descend très bas. Et donc ça évoque quoi, ce pied qui descend très bas? Ça évoque la force de l'essence divine, parce que seule l'essence divine a le pouvoir de descendre très bas, pour transformer l'obscurité de l'exil en un réceptacle capable de recevoir les lumières les plus élevées. Donc ce pied-là de la lettre tzaddik, il évoque cette force-là de l'essence divine. Cette force-là, elle est comparable à l'huile. Le rabbi, même la chassidoute, tous les maîtres de Chabad, ils expliquent que l'huile aussi a le pouvoir de descendre très bas. Elle a le pouvoir d'imprégner toutes les matières les plus dures, les matières les plus résistantes. Et de la même façon, le tzaddik lui-même, il peut aussi descendre très bas, puisqu'on voit qu'il a le pouvoir de toucher chaque juif, même celui qui se trouve à un niveau très bas, si on peut dire. Il va parvenir, le tzaddik, à toucher ce juif-là. Donc on voit cette force-là de l'essence divine de descendre dans les niveaux les plus bas pour les élever, justement. Donc ça, c'est la force du tzaddik, et c'est allusionné par le pied de la lettre kouf du mot tzaddik, précisément. Dans le Dvar Malchut, le rabbi, il va rapporter aussi le Tehillim, le 90. Pourquoi le 90? Parce que 90, c'est la valeur numérique de la lettre tzaddik. Et donc, dans ce Tehillim-là, il est dit que le plaisir de mon maître, notre Dieu, soit avec nous établi, pour nous, l'action de nos mains, et que l'accomplissement de nos mains soit établi. Donc, le rabbi va rapporter ce Tehillim pour nous expliquer que lorsque Moshe, il va construire le Mishkan, il va prier pour que Dieu se révèle dans le Mishkan. Donc ça, c'est cette révélation de Dieu dans le Mishkan, ça fait justement allusion à ce qu'on a dit précédemment quand on a parlé du pied de la lettre Kouf qui se révèle dans les niveaux les plus bas. Le Mishkan, il représente aussi cette révélation, le dévoilement du divin dans ce monde. On le sait, Moshe, c'est celui qui va faire descendre la présence divine, la Shrina, dans ce monde matériel. Mais Moshe, il va aussi prier pour que cette lumière divine, elle se révèle aussi dans les actions des enfants d'Israël. Donc le Rabbi, il va nous souligner ici que évidemment Moshe, il a un rôle qui est essentiel puisque il est l'intermédiaire entre Dieu et l'assemblée d'Israël. Donc il est celui qui sait recevoir, qui peut recevoir, qui est un réceptacle capable de recevoir la lumière divine, mais surtout il est celui qui va transmettre cette lumière divine aux enfants d'Israël. Donc on voit ici le contenu profond de ce Shabbat Agadol, c'est de comprendre ce point essentiel que tous les bienfaits matériels et spirituels nous parviennent de Dieu par l'intermédiaire de Moshe. Aussi, en ces derniers moments de l'exil, nous devons réaliser que la réussite de toutes nos actions dépend de la valeur que nous donnons à notre attachement au Moshe de notre génération, le Rabbi. Le second point de ce Shabbat, c'est le fait que nous lirons la Parasha Metzora avec l'aide d'Hachem. Alors l'un des points essentiels de l'enseignement de la Chassidoute sur la lèpre, puisque Metzora se désigne la lèpre, c'est que bien que la lèpre soit fixée par la Torah et par l'intermédiaire des Kohanim comme un signe d'impureté, en réalité la lèpre, elle cache une très grande lumière. Alors le Rabbi va rapporter à ce sujet un enseignement de son père, Rabbi Levi Yitzhak, selon lequel la valeur numérique de l'expression « à Metzora », le lépreux, est égale à 411, exactement comme la valeur numérique du nom « Tohu », dont les lumières sont d'une très grande puissance. Quand on parle de Shvirat HaKelim, de ces étincelles, de cette lumière qui vient du monde de Tohu, de ces très hautes lumières qui proviennent de la brisure des vases, et ces lumières-là, ces étincelles divines qui sont tombées ensuite dans tous les mondes de la création, et qu'on a pour mission d'élever, de raffiner, alors c'est une allusion justement à ce mot-là, à cette expression « à Metzora le lépreux ». Puisque comme nous l'enseigne donc Rabbi Levi Yitzhak, la valeur numérique de le lépreux, à Metzora, c'est égal à 411, comme la valeur numérique du nom Tohu. Dans le même ordre d'idées, la Chassidoute, elle nous enseigne que les lettres de Nega, Nega ça désigne la tache de lèpre, ce sont les mêmes lettres que celles de Oneg, le plaisir. Donc on voit que le contenu spirituel de Nega, de la lèpre, c'est en fait, c'est lié au plaisir supérieur, à Oneg. Nega, ça désigne la lèpre, et Oneg, ça désigne le plaisir supérieur de Dieu, comme on appelle en hébreu Oneg Aelion. Donc qu'est-ce qui nous est donné à comprendre ici? C'est que la lumière spirituelle de la lèpre est tellement élevée qu'elle ne peut trouver ici-bas un réceptacle capable de la contenir. En fait, c'est ce sujet-là qui est ici donné à travers la lèpre. C'est qu'on doit comprendre que lorsque cette lumière-là, elle va s'échapper du réceptacle au moment où il se brise, le réceptacle, parce qu'il n'est pas assez solide pour supporter l'intensité de cette lumière, alors la lumière, elle va être détournée vers l'autre côté de la sainteté, et elle va être finalement usée par les forces du mal. C'est pourquoi ce que l'on appelle l'obscurité, la lèpre, en fait, ça résulte du fait qu'une lumière excessivement élevée n'a pas trouvé de réceptacle capable de supporter, de la contenir et de la garder. C'est ça le sujet de Shvirat HaKelim, de la brisure des vases. Donc, le fait qu'une lumière ne trouve pas de réceptacle. Donc, on peut comprendre ça à travers un exemple que nous donne le Rabbi. Il nous dit que lorsqu'un juif y ressent durant sa prière un amour qui est très fort pour Dieu, et à ce moment-là que son âme elle est attirée vers sa source, à tel point que même elle serait prête à quitter le corps. Donc ça c'est le niveau de ratso. Alors il est essentiel, c'est ça le point qui est important, qui est souvent relevé par les maîtres de Chabad, c'est après la prière de faire que cette lumière-là qu'on a ressentie pendant notre prière, cette lumière qui représente, qui exprime l'amour qu'on a pour Dieu, il trouve un réceptacle. Et ce réceptacle-là, c'est l'étude de la Torah, ou alors c'est l'accomplissement des commandements divins, c'est le niveau de Chov après la Tfila. Alors si un juif, donc, il n'étudie pas la Torah, ou il n'accomplit pas de mitzvot après avoir ressenti une très grande lumière, un très grand amour pour Dieu, alors le Rabbi nous explique que les signes de la lèpre apparaîtront alors sur sa peau. C'est-à-dire que si la lumière de cet amour pour Dieu ne s'habille pas dans le réceptacle de l'étude ou dans celui de l'action concrète, alors cette lumière qui est excessivement élevée et qui n'a pas trouvé de réceptacle capable de contenir son intensité, comme on l'a dit, elle sera finalement détournée vers l'autre côté de la sainteté et finalement utilisée par les forces du mal. Donc c'est pour cela que le rabbi nous enseigne que celui qui n'étudie pas ou qui n'accomplit pas une mitzvah après sa prière, il va ressentir une intolérance vis-à-vis de son prochain et il tombera facilement dans la colère, ce qu'à Dieu ne plaise. C'est ça la brisure des vases. C'est le fait de ne pas pouvoir contenir une très haute lumière. C'est la différence qui existe entre Yaakov et Esav. Yaakov, c'est celui qui contient la lumière divine et qui la garde en lui, qui sait exploiter cette lumière. Et Esav, c'est celui qui ne peut pas supporter cette lumière divine tant elle est intense et qui va donc vivre une brisure, qui va justement ne pas pouvoir contenir cette lumière, et ça s'exprime, comme le rabbi le dit ici, par une intolérance vis-à-vis de l'autre. Donc on comprend l'importance du travail de chauve. Le chauve, ça représente le retour de l'âme dans le corps. Ça représente la solution, le remède et la guérison de la lèpre. Donc chauve, c'est lié avant tout à la faculté du bitoul, c'est-à-dire le fait de se soumettre à Dieu, à sa volonté, et surtout aussi, comment il va parvenir à se soumettre véritablement à Dieu, de manière concrète, c'est quand il se soumet aux enseignements du rabbi de manière concrète. À ce moment-là, alors il va devenir un réceptacle capable de contenir les lumières les plus élevées, les garder surtout. Le troisième sujet dont il est question dans ce Shabbat, c'est le jour de l'anniversaire du rabbi, puisqu'on est tout proche de l'anniversaire du rabbi, par ce Shabbat-là, justement, qui nous prépare à ce jour d'anniversaire. Et le jour de l'anniversaire, il doit être ressenti comme un jour de joie. Pourquoi ? Parce qu'il rappelle le jour de la naissance, lorsqu'une nouvelle âme naît dans ce monde. Et alors, on peut commencer, pour cette personne-là va commencer pour elle le début de son service divin. Donc on voit que chaque juif, le jour de son anniversaire, il se doit de méditer à cette promesse qu'il a faite à l'Éternel avant de descendre dans ce monde, et qui est rappelée dans le livre du Tanya, « Sois un juste et ne sois pas un méchant, et même si tout le monde te dit que tu es un juste, tu seras à tes yeux comme un méchant. » Donc on voit que la chassidoute, elle va souligner qu'au moment de cette promesse, l'Éternel il va rassasier l'âme des forces dont elle aura besoin pour assumer sa mission, mais il est évident que l'homme doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour nourrir son âme tout au long de son existence. Et aussi, on doit comprendre que l'étude de la chassidoute est indispensable à chaque juif pour mener cette mission qui lui est confiée, de faire de ce monde matériel une demeure spirituelle pour Dieu. Ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est de réaliser que le jour de l'anniversaire d'un juste, c'est un jour qui est particulièrement lumineux. Pourquoi ? Parce que le monde entier et toute l'assemblée d'Israël, elle repose sur ce juste, comme il est dit, le juste est le fondement du monde. Et donc on peut se rappeler de ce que Rashi a écrit au sujet de la naissance de Moshe. Il a écrit que quand Moshe naquit, toute la maison s'emplit de lumière. Alors cette maison qui s'emplit de lumière, évidemment c'est la maison de Moshe elle-même, mais on doit aussi comprendre que comme on dit s'il est écrit dans la Torah « Faites pour moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous », donc le rabbi Rayatz, il explique que ce sanctuaire-là, c'est nous-mêmes, qu'on doit faire de nous-mêmes et de notre âme, un mishkan, un endroit où se révèle la présence divine. Donc la maison qui s'emplit de lumière, ça peut désigner aussi notre âme elle-même. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que vraiment cette maison-là, que toutes nos forces, toutes les forces de notre âme, elles soient illuminées par cette lumière, la lumière du rabbi. Cette lumière qui est apparue au moment de sa naissance, elle doit elle-même illuminer notre être tout entier. On raconte au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai que dans ses derniers moments dans ce monde-là, il a révélé les secrets de la Torah à tous ses élèves, ses élèves les plus proches, et il a donc dit des choses, des secrets vraiment très profonds de la Torah, et on dit que Dieu lui-même, il était dans la maison de Rabbi Shimon Bar Yochai à ce moment-là pour écouter les secrets de la Torah de Rabbi Shimon. Donc c'est cette lumière-là, c'est une lumière qui est spirituelle évidemment, cette lumière-là qui est apparue au moment de la naissance de Moshe, c'est la lumière aussi qui est apparu au moment de la naissance du rabbi, et le jour de l'anniversaire, donc, il évoque ce dévoilement, le dévoilement de cette grande lumière, le dévoilement de cette lumière qu'on doit s'efforcer de trouver, de garder, comme on l'a dit auparavant, c'est-à-dire d'être des réceptacles pour recevoir cette lumière. Rabbi Yosef Yitzhak, il a écrit dans Igerot HaKodesh, il a écrit que « Sais-tu qui est le Mashiach ?» C'est celui qui révélera l'enseignement caché de la Torah dans toute sa profondeur, de sorte que tous en ressentent la clarté. Donc c'est de cette lumière-là qu'on parle. Par ailleurs, l'amour Emtsaï lui-même, il a écrit au sujet du Mashiach qu'il agira pour celui qui l'attend. C'est-à-dire que le Mashiach révélera le plaisir infini à ceux qui l'attendent et souhaitent sa venue. Comme il est dit, s'il tarde, sois patient. Donc cette attente-là, elle doit s'emplir d'espoir en sa venue. Comme il est dit, voici c'est notre Dieu, nous avons placé notre espoir en lui et notre âme l'attend. Donc Mashiach, il agira pour celui qui l'attend, ça ne signifie pas seulement que nous devons être patients, bien au contraire, on doit être fidèle aux paroles du Rabbi et on doit demander Ad Matai, on doit être impatient. Donc la Noura Mitzahi, il définit ici l'attente du Mashiach comme un désir. Donc cette attente-là, elle inclut en elle évidemment l'espoir de sa venue, mais ce qu'elle exprime par-dessus tout, c'est le désir de sa venue. C'est en fait ce désir-là, c'est l'expression du lien le plus profond de l'âme juive avec Dieu, c'est un kesher atzmi, c'est le niveau de yechida et c'est le niveau de l'essence de l'âme. Donc on doit comprendre que lorsque Rashi il écrit au sujet de la naissance de Moshe, quand il naquit, toute la maison s'emplit de lumière, comme c'est écrit dans la Gemara Sota, ça peut être expliqué de la manière suivante. Quand il naquit, la naissance de Moshe, elle peut faire aussi allusion à la naissance du Rabbi, qui est lui-même Itpashtuta de Moshe, l'équivalent de Moshe dans notre génération. Le Rabbi va représenter l'essence de l'âme d'Israël, et son âme est une âme collective, et il possède la force de révéler l'essence de l'âme de chaque juif. Or, comme on l'a dit, comme l'âme elle est comparable à une maison, alors, nous pouvons expliquer que quand il naquit, toute la maison s'emplit de lumière, c'est une allusion à la lumière de l'essence de l'âme qui se révèle dans le corps. La maison, ça désigne en fait la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, et quand il naquit, c'est une allusion à la naissance du Rabbi, qui représente la révélation de l'essence de l'âme de chaque juif. C'est ce que le Rabbi explique dans son discours Ve'ata Tetzave. Il explique que le niveau supérieur de la révélation de Yechida, de l'essence de l'âme, il est atteint lorsque la lumière de l'essence divine s'unit véritablement aux forces de l'âme, c'est-à-dire à l'intellect et aux sentiments. Donc, dans ce cas-là, le caractère divin et immuable qui ne change pas, comme l'Éternel le dit lui-même, il dit « je n'ai pas changé », ça s'unit aux forces limitées de l'âme qui s'habille dans le corps, à l'intellect, aux émotions, et à la vie du corps. Alors l'homme y parvient à ce moment-là à une perception véritable du divin. On peut dire vraiment qu'à ce moment-là, l'infini divin, il va s'unir aux forces limitées de son âme. Et c'est ça la mission du Rabbi. C'est ça que représente l'anniversaire du Rabbi. C'est ce rappel-là, ce chidouche-là, que le Rabbi, il est celui qui permet l'union de l'infini avec le fini. Puis le quatrième sujet de ce Shabbat, c'est les 120 ans du Rabbi. Alors là, on peut rappeler un proverbe du Tzemar Tzedek qui a dit que celui qui est profond, il sait qu'il est inutile de demander une bénédiction pour le service de Dieu parce qu'il faut que l'effort pèse sur les hommes. Donc l'homme qui est profond, c'est celui qui s'engage totalement dans tout ce qu'il fait. Ça, c'est l'importance de s'engager dans ce qu'on fait, et c'est l'importance de considérer chaque moment de notre existence, comme le Rabbi le souligne sans cesse. Celui qui considère vraiment les quatre coudées dans lesquelles il se trouve, et qui agit dans ces quatre coudées-là, il va avoir une influence sur le monde entier. Alors l'exemple que le Rabbi a donné à ce sujet, c'est celui du Farbringen, c'est celui du Mahamar du Rabbi, quand le Rabbi s'apprête à dire Mahamar, l'importance du nigoun, l'importance de chanter un nigoun, un chant chassidique, avant d'écouter le Mahamar du Rabbi. Alors, on peut établir ici un lien avec une sira que le Rabbi a prononcée lors du Yartzeit de son père, Rabbi Levi Yitzhak. Il a rapporté un enseignement du Harizal, selon lequel la valeur numérique du mot dima, larme, il est égal à 120. elle est égale à 120. Et le chiffre 120 dans la Torah, ça représente une vie entière. Donc, le rabbi va nous faire remarquer que si l'on additionne les lettres du mot dima, larme, on obtient seulement un total de 119. Alors en fait, le Harizal, il compte le mot dima lui-même en entier, ce mot-là, pour un de plus, ce qui fait donc un total de 120. Alors le rabbi, pour reprendre les paroles du rabbi, il écrit, de fait, le calcul réclame que l'on compte en plus de la valeur des lettres du mot dima, on compte en plus le mot en tant qu'ensemble, pour montrer qu'il y a un but plus haut qui donne du sens à tous les détails. Ça c'est marrant parce que ce but qui est plus haut, qui va donner des sens à tous les détails, c'est l'essence même du mot. C'est son essence qui va donner du sens vraiment, qui va donner toute la profondeur à tous les détails. Comme on le voit pour l'âme, l'essence de l'âme, elle va donner vraiment du sens à toutes les parties de l'âme, à toutes les forces de l'âme. De la même façon, quand on compte le mot en entier, le mot dima, donc c'est l'essence de ce mot-là, elle va donner un sens au mot larme, de manière profonde. Alors le rabbi nous explique qu'est-ce que ça signifie. Il explique que la faute qui a été commise par Adam et Chava, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, en goûtant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça a amené la mort et les larmes dans le monde. C'est pourquoi le rabbi nous enseigne que le but des larmes est de nettoyer la faute pour amener l'homme au repentir complet. Donc, on va comprendre que c'est ce repentir-là, ce repentir complet, qui correspond au chiffre 1, qu'on va ajouter au total de 119. Et donc, le mot dima, les larmes, on doit comprendre que sans le repentir, des larmes, sans l'esprit, le sentiment de teshuvah, c'est un service de Dieu qui est incomplet. Ça n'équivaut qu'à 119. Mais quand on ajoute la tshuva, on ajoute le repentir, alors ça devient un service divin complet et on atteint le chiffre 120. Donc cet enseignement du rabbi, il exprime l'importance des larmes du vrai repentir. Parce que ces larmes-là, elles ont le pouvoir d'éveiller le désir de Dieu, de nous délivrer. Les larmes de la teshuva amèneront finalement les larmes de joie de la geoula. C'est pourquoi le rabbi apporte également dans cette sira, il explique que Maïmonide, il a dit au sujet des lois du deuil, il a dit que le but du deuil et des larmes, c'est le repentir. C'est de ressentir du remords pour les fautes passées. Et c'est ce remords-là qui va nous pousser vers la teshuva, vers ce repentir complet dans ce monde. Alors à ce moment-là, ces fautes, elles sont pardonnées, et plus encore, elles vont devenir comme des mérites, comme l'Admor HaZaken l'explique dans le livre du Tanya. Donc on pourrait prolonger cet enseignement du Rabbi en disant que, sous forme d'un chidouche, que le mot Nigun lui-même, il a la même valeur numérique que le mot Dima, que l'arme. Donc parce que si on additionne toutes les lettres du mot Nigun, on obtient un total de 119. Donc Nigun, ce qui désigne l'action de chanter une mélodie chassidique, si on chante sans ressentir un sentiment profond, c'est un sentiment de teshuvah, alors c'est aussi un service incomplet, et ça n'équivaut qu'à 119. Mais quand on ajoute à la mélodie ce sentiment-là, ce sentiment de teshuvah, alors ça devient un service divin complet, puisqu'on atteint le chiffre 120. Donc ce qui est vrai pour les larmes, ça l'est également pour la mélodie, pour le nigun, parce que toutes les deux sont une préparation à la délivrance finale, à la Géoula. Donc on comprend que l'importance de s'attacher à vraiment à chanter avant d'entendre le discours, le Mahamar du Rabbi, en ressentant un sentiment de Teshuvah. Si on reprend de manière brève les quatre points qui ont été donnés ici par l'étude de ce Dvar Malchut, alors on a commencé par parler du Shabbat Agadol, donc on a expliqué que c'est la lettre Kouf du mot tzadik, c'est le fait d'attirer les plus hautes lumières et surtout d'être un réceptacle pour recevoir ces hautes lumières, et ça c'est par l'attachement au Rabbi. Ça c'est le premier point qu'on a dit. Quand on a parlé de Metsora, de la lèpre, on a expliqué que justement la lèpre c'est l'incapacité de contenir des lumières qui sont très élevées, et donc là aussi on voit l'importance de s'attacher au Rabbi, parce que c'est justement par son attachement, par le fait de recevoir ses enseignements avec profondeur, qu'on peut nous-mêmes devenir une demeure pour Dieu. On peut nous-mêmes révéler grâce au Rabbi l'essence de notre âme en nous-mêmes et pouvoir la contenir afin qu'elle s'exprime dans nos pensées, dans nos paroles et nos actes. Ensuite, on a parlé de l'anniversaire du Rabbi, du fait que quand le Moshe est né, une grande lumière, toute la maison était éclairée de lumière. Là, à ce moment-là, on fait la comparaison avec le Rabbi lui-même, puisqu'il est l'extension de Moshe dans notre génération, et que justement, la lumière de Moshe, c'est aussi la lumière du Rabbi, c'est la lumière de la délivrance finale, et emplir toute la maison de lumière, c'est s'emplir nous-mêmes de cette grande lumière, de la lumière du Rabbi, de l'essence du Rabbi. Et le dernier point, c'est le chiffre 120. Là aussi, on s'appuie sur la sikha qu'il a prononcée pour le Yartzeit de son père, Rabbi Levi Yitzhak, et dans lequel il explique la signification des larmes. 120, c'est donc les larmes, la valeur numérique de larmes, avec, qui inclut en elle-même, Shara Kolel, le chiffre 1, le mot larmes lui-même, le sens profond du mot larmes, le désir de Teshuvah. Et puis on a dit que cette valeur numérique, c'est aussi la valeur numérique de Nigun. Et le Nigun lui-même, c'est ce chant qu'on chante avant tous les chants chassidiques, l'importance des chants chassidiques, qu'on doit chanter avec un sentiment, en ressentant un sentiment qui est profond. C'est le désir, en fait, ce sentiment-là, ce qui ressort de tous les points qui ont été donnés jusqu'à présent. En fait, c'est qu'ils correspondent tous au dévoilement du sentiment le plus profond qui existe dans le cœur de chaque juif. C'est le dévoilement de Dieu par l'intermédiaire du Machiar, le dévoilement du Machiar. Et c'est uniquement par notre attachement au Rabbi qu'on peut parvenir à dévoiler ce sentiment qui constitue notre être tout entier, l'essence de notre être, l'essence de notre âme. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Mevorach.